Voilà, nous allons poursuivre un peu notre réflexion. On était resté à la mise en présence de Dieu, au point 4, chapitre 4, et voilà, A, B. Je me surprends moi-même des fois. Prier, c'est un dialogue d'amour avec Dieu. Je crois que c'est une des clés de c'est quand on demande à Thérèse Avila de définir la prière, elle dit c'est un dialogue, un commerce dans le langage de l'époque, un échange d'amitié, d'amour avec Dieu dont on se sait aimé et que l'on veut aimer en retour. C'est sublime, je crois qu'on aura tout dit là. Alors, vous savez, des fois des gens opposent oraison, adoration, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Tout est un commerce. Notre seul rapport avec Dieu est un dialogue d'amour avec lui dont on se sait aimé et qu'on veut aimer en retour. Et première étape, donc, je me sais aimé. Aimer, ça veut dire quelqu'un qui me veut du bien. C'est important de comprendre que aimer, ça veut dire il me veut du bien. Et donc Dieu ne peut pas, c'était Simone Veil qui disait ça, la philosophe, disait, Dieu n'a qu'un mot à dire à sa créature, c'est je t'aime. Il ne peut pas dire je te hais, je te veux du mal. Il peut dire que je t'aime. Il dit Dieu et je t'aime comme une émeraude est verte. Une émeraude qui n'est pas verte, elle n'est plus une émeraude, vous voyez hein? Dieu est je t'aime. Alors elle disait, le verre d'eau dans le désert, c'est le je t'aime de Dieu. La gorge qui brûle dans le désert, sans avoir trouvé d'eau, c'est encore le je t'aime de Dieu. Tout le travail de la foi, la première fois, on comprend facilement que c'est un je t'aime de Dieu parce que sa délicatesse et sa providence vient me soutenir et me donner à boire. Et dans un deuxième cas, c'est plus difficile à le comprendre. Comment, au-delà de la boque, de la châtaigne, des piquants de la châtaigne, découvrir le fruit qui est à l'intérieur, voyez ? Tout le travail de la foi consiste à rentrer à l'intérieur et découvrir dans la rugosité d'un événement ou la difficulté d'un événement, le je t'aime de Dieu qui s'y cache. Et ça, il faut lire, c'est pas un chrétien d'ailleurs, c'est un juif, mais qui est lumineux, il s'appelle Viktor Frankl, c'est un psychiatre qui a été disciple de Freud, de Jung et de Adler. Donc il a connu le problème du ça et du surmoi chez Freud, il a connu le rêve et la sublimation chez Jung, et il a connu le complexe de supériorité ou d'infériorité chez Adler. Donc les trois grandes écoles psychanalytiques, et puis s'est retrouvé à Auschwitz. Et ça change les perspectives. On n'est plus dans la théorie, on est dans l'existentiel. Et s'est rendu compte qu'il y avait deux types de personnes, ceux qui survivaient, et ceux qui mouraient, et que c'était pas fonction de la capacité physique. Il y avait des grands balèzes qui mouraient très vite, il y avait des personnes toutes frêles et de santé plutôt chétive qui survivaient, et s'est rendu compte que la différence entre les uns et les autres, c'était le sens de la vie qu'ils avaient, sens de la vie et la capacité de s'émerveiller des choses les plus simples. Alors il raconte lui que avec un ami, ils avaient choisi comme sens de leur vie de non pas de survie mais de vie, c'était de retrouver leurs épouses à la sortie. Alors ils plaisantaient sans arrêt comme ça. Un jour on est tombé en plein hiver dans la boue, on s'est retrouvé tout crotté en froid, on s'est relevé tous les deux et on a éclaté de rire. On disait heureusement que nos épouses nous voient pas, parce que si elles nous voyaient comme ça, la bordée qu'on se prendrait. Et il dit, ça nous a mis en bonne humeur pour toute la journée. Il raconte qu'un jour, il devait casser un tas de terre gelée avec les mains gelées au froid de l'hiver le matin. Il dit que tout d'un coup, un petit oiseau est venu se poser et a commencé à chanter. C'était 10 secondes, dit-il. Le ciel a été transfiguré. La journée a été transfigurée. Ou un soir, ils étaient tous en train dans les baraquements comme ça, quelqu'un dit, venez vite voir le coucher de soleil. Et tout le monde est sorti. On était épuisés après une journée de travail, après les mauvais traitements que nous avions suivis, on est sortis pour aller voir un coucher de soleil. Vous voyez, pas tous, mais ceux qui avaient ce sens à la vie, ceux qui étaient capables encore de s'émerveiller, là au milieu, il y avait cette présence d'amour. Et puis à la sortie, sa femme a été tuée dans un autre camp à Ravensbrück, et donc il a dit, mais ce qui donne un sens à la vie sera jamais quelque chose qui peut passer, y compris l'amour d'un être humain, ce sera quelque chose qui ne passera pas, et ce qui ne passe pas, c'est Dieu. Donc il y avait toute une école de thérapie qui s'appelle la logothérapie, qui est une des écoles les plus lumineuses, je crois, en thérapie aujourd'hui, parce qu'elle rejoint l'anthropologie, la nature humaine, elle rejoint ce qu'il y a de plus grand, le sens, mais qu'est-ce que je fais, d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je fais entre deux, vous voyez, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est cet émerveillement, Il y a un je t'aime de Dieu qui est dit...